Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Campus, sur la fréquence 90.8. Et c'est l'heure de l'apérophonie. Aujourd'hui, on est au ciel pour interviewer Paul, Baptiste et Luc, qui forment un groupe résident du ciel, trio de death metal. J'ai nommé Liquid Flesh. Bonsoir.
Salut.
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 Alors, pour lancer cette interview, est-ce que vous pourriez vous présenter individuellement et décrire ce que vous faites dans le groupe?
Eh ben, moi, c'est Luc, je suis guitariste, accessoirement compositeur, je suis dans le groupe depuis le début. C'est vrai qu'il n'y a plus que moi maintenant qui suis membre originel. Mais voilà, c'est à peu près tout.
Moi, je m'appelle Paul, je suis bassiste et chanteur.
Et moi, je m'appelle Baptiste, je suis batteur depuis novembre ou décembre 2023. Voilà, encore tout frais.
C'est tout récent.
Alors, vous avez fait l'ordre chronologique
d'apparition.
Exactement.
Et donc, Luc, le groupe, il existe depuis quand?
Depuis 2014. Donc voilà, puis on a sorti notre premier album en 2016. Et voilà, donc ça fait bien 10 ans maintenant. Et ouais, l'année des 10 ans, il va falloir faire un truc peut-être.
Est-ce que vous avez toujours fait du death metal
dans ce groupe-là,
dans votre
ouais.
carrière musicale individuelle sinon?
Ah, individuellement, principalement, ouais, mais pas que, non. Non, il y a eu d'autres trucs, comme actuellement, par exemple avec Paul, on a un groupe de rock progressif plutôt. Donc ouais, ça peut arriver de faire des petits écarts.
Et vous?
Moi je suis de formation, je suis saxophoniste, bref, donc j'ai fait plein de trucs un peu différents. Mais c'est vrai que mon parcours de musicien, moi, il est. Les premiers groupes que j'ai eus quand j'avais 14-15 ans, c'était. En vrai, ça a très vite été du death metal quand même. Donc moi je suis quand même plutôt de cette branche-là.
Et moi, pas du tout. Je viens plutôt du rock, de la pop rock. Je me suis intéressé un peu tardivement au métal, étant un peu plus jeune. Et le death metal, je m'y suis mis en découvrant Liquid Flesh, en voyant l'annonce lors de la recherche du, du dernier batteur. Et voilà, je m'y suis mis du coup il y a un peu moins de 6 mois. Et ça me sort un peu de ma zone de confort. Et je trouve ça pas mal, quoi.
Ouais, c'est marrant comment on vient au métal en venant d'autre part dans la musique. Il y a un pas à franchir.
Quand on discute avec des collègues, on a toujours un peu le même, il y a un peu toujours le même historique, c'est-à-dire qu'on vient souvent du rock en fait. On a écouté ça parce que nos grands frères, nos grandes sœurs, nos cousins, nos parents écoutaient ça. Et en fait, il y a un truc un peu adolescent de recherche de plus en plus de violence. Donc on écoute des trucs de heavy metal, puis hard rock, heavy metal, et puis après on passe à d'autres trucs, donc à metal un peu symphonique, des choses comme ça. Et vraiment, le death metal et d'autres styles un peu extrêmes, donc qui sont par exemple le black ou le grindcore, des trucs comme ça, toutes les succursales du metal et un peu extrêmes, c'est vraiment le pinacle de tout ça. Et donc souvent, on y arrive, ouais. Enfin, moi, je remarque souvent en discutant avec des collègues, on a souvent ce même parcours. Et à partir de ça, quand t'es ado, t'as découvert ce genre de musique, c'est complètement fou. Et puis, t'es avec tes potes, tu dis, on va créer un groupe, quoi. Et en fait, ça part souvent de ça, quoi. Je sais pas si.
C'est vrai, c'est un peu une escalade qui est un peu motivée par de la curiosité, en fait. On se demande jusqu'où ça peut aller. Après, on découvre un truc qui est pire que le précédent. Mais vu qu'on s'est habitué au précédent, pour nous, c'est pas pire, c'est juste encore plus intéressant dans cet aspect-là de la musique, quoi. Et puis voilà.
Tout à l'heure, tu parlais de violent dans la musique. Est-ce que c'est vraiment l'adjectif dont vous qualifieriez le death metal?
Je pense qu'on le ressent pas spécialement comme ça maintenant, parce que c'est une histoire de contexte. Quand on prend tous les trucs de metal dans ce contexte-là, il y a des trucs qui vont être ressentis comme de la violence, et puis d'autres qui vont être plutôt ressentis comme quelque chose d'atmosphérique ou Ouais, ça dépend vraiment de l'approche, quoi.
Ouais, peut-être que j'ai mal mis. Peut-être le mot, c'est plus ce qui définit, c'est plus l'intensité, en fait. Il y a un niveau d'intensité sonore, instrumentale, et puis même dans la prestation, dans toute l'imagerie qui va avec, qui est très intense. Et ouais, c'est vraiment ça qui capte, quoi.
Et c'est quoi ce qui différencie le death metal d'autres styles de metal, par exemple le black, tu disais?
Sans faire un historique, en gros le death metal, on va être plutôt sur des musiques avec beaucoup de, donc déjà accordées très bas, avec des tempos assez élevés et qui vont et avec beaucoup de ce qu'on appelle, donc c'est vraiment dans le rock et dans le metal, ce qu'on appelle le riff, c'est-à-dire en fait une ligne mélodique à la guitare. On va avoir vraiment une compilation de riffs dans tous les sens, qui n'ont pas forcément des fois de sens entre eux, mais ça donne un ensemble très compact. Et avec, on a des parties de batterie assez intense aussi pour le coup, et souvent et la voix qui est caractéristique du death metal, qui est plutôt une voix grave, quoi, ce qu'on appelle le growl.
Le growl.
Oh, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est à peu près ça.
C'est quoi un riff exactement? Qu'est-ce qu'on fait comme geste?
Alors un riff, ouais, c'est subjectif comme truc, hein. C'est plus que c'est pas un jeu en accord comme on peut avoir par exemple dans, je sais pas moi, dans le pop rock ou même dans le black metal. Dans le black metal, ça va être beaucoup d'accords, ouais, plaqué, beaucoup d'accords, soit pas forcément complet, mais ouais, ça va être un jeu, on va voir pendant quelques mesures un accord, ensuite un autre, etc. Et c'est plus comme ça que la musique se construit, alors que dans le death, c'est plutôt, ouais, ça peut changer de tonalité au sein du même riff, un peu hasardeusement. Et c'est un peu ça qui est intéressant aussi dans ce style, c'est qu'on peut vraiment tout se permettre comme dérapage, même au sein d'un seul riff. On peut faire une grosse cassure en plein milieu, partir sur autre chose, accélérer, ralentir. Et au final, ouais, c'est souvent assez rapide, mais ça peut être aussi très lent, et vraiment lent à l'extrême. Et c'est ça qui est... Ouais, pour moi, c'est un des styles les plus libres dans la sphère métal, quoi.
Et malgré l'imprévisibilité du rythme, des accords, vous arrivez à rester ensemble tous les trois?
Bah, parce qu'en général, le tempo, la plupart du temps, voilà.
Le tempo reste le même, donc on se réfère toujours plutôt à ça. Ouais, c'est ce qui va nous guider, peu importe le riff ou le pattern de batterie, on se réfère à ça.
Et après, vous composez tous les trois ensemble
Jusque-là, on n'a pas encore beaucoup fait ça, mais ouais, dernièrement, on essaie de composer un peu plus tous les trois.
Sinon, c'est plutôt toi qui compose, Luc.
Ouais, jusque-là, c'était un peu ça la plupart du temps, ouais. Même s'il y a eu des moments où on se basait sur des improvisations faites en répète. Et puis, ouais, souvent, c'est des improvisations qui partent dans tous les sens, qui ont l'air d'avoir rien d'intéressant, mais finalement, on arrive à sortir des trucs de l'eau. Et puis ça construit le morceau.
Et vous les gardez. Et alors, sur vos pochettes d'albums, ça fait un peu film d'horreur, les visuels. Et je me demandais, donc c'est assez drôle à regarder, je me demandais qu'est-ce qui vous plaisait dans cet univers des films d'horreur ou de l'horreur en général.
Et ben, c'est un peu... Ça, c'est un peu l'idée première du moment où on a fondé le groupe. L'idée, c'était vraiment de faire de la musique inspirée de films d'horreur, de série B. Donc ces films d'horreur un peu fun, qui n'ont pas du tout de budget, où c'est vraiment basé sur le fun, quoi, l'humour, et puis juste des délires horrifiques. Et ouais, on voulait essayer de transposer ça en musique. Du coup, ouais, c'est là depuis le début, et puis c'est plus un peu une imagerie qu'on aime coller à cette musique-là. Parce que ça correspond assez, et puis ça nous donne une petite cohérence dans les thèmes abordés dans les paroles.
Donc, comme au niveau des titres des morceaux ou des visuels, moi j'ai trouvé ça drôle, mais c'est volontaire, quoi.
Ouais, carrément.
C'est voulu.
Ouais, ouais.
Il y a vraiment une exagération de cadavres, de zombies, morts.
Ouais, voilà. Avec des couleurs un peu vives, des fois. Voilà.
Ou un peu... un peu froide aussi.
Ouais, c'est vrai que c'est sur les pochettes d'albums, oui, mais pas sur les autres visuels. Mais c'est un peu un tout, quoi.
Et tu parlais de films de série B, c'est quoi les livres, les clips, les films qui composent tout ça, tout votre univers?
Déjà, celui qui a donné son nom au groupe, c'est Street Trash, un film des années 80 qui est vraiment avec un très petit budget. On dirait que c'est vraiment une bande de potes qui a tourné le film pour déconner. En fait, dans le film, il y a une boisson qui fait fondre les gens quand ils la boivent. Voilà, pour faire un très très gros résumé. Et du coup, ça vient de là, Liquid Flesh, quoi. Donc ouais, par exemple, celui-là, il est incontournable. Puis, je sais pas, il y a les Bad Taste, Brain Dead, Evil Dead, tous ces trucs-là.
Tous les trois, vous avez vu, vous êtes un peu dans le même univers ?
Oui, ouais, c'est quelque chose qui nous parle. Moi, j'élargirais ça même sur un peu les films de genre, en fait, quoi. Voilà, je trouve qu'il y a un truc assez similaire sur, en fait, dans ces esthétiques, comme on fait le death metal assez extrême, où pareil, il y a, comme on l'a pu un peu expliquer depuis le début, il y a plein d'idées, et c'est vrai que quand on écoute le ressenti, enfin, je sais pas, même en étant novice ou un peu initié, on écoute tout ça, c'est quand même beaucoup d'informations, c'est quelque chose d'assez compact et tout. Bon, il y a quelque chose qui esthétiquement se retrouve dans ces films de genre là où on a plein d'idées, ça fait référence à plein de choses souvent, et le résultat souvent est voilà, rigolo, mais en fait il y a toujours des trucs un peu intéressants malgré ça, et c'est ce qu'on avait voulu conserver. Donc ouais, il y a tout ce qui est, voilà, les films de science-fiction, les films, moi j'ai beaucoup apporté, quand je suis arrivé sur le deuxième album, et moi j'avais moins ce truc bagage film d'horreur un peu classique. Par contre, j'avais tout ce truc un peu film noir que j'aimais bien, que j'avais envie aussi d'apporter dans l'écriture et dans l'ambiance. Donc c'est quelque chose qu'on consomme. Ouais.
Moi, c'est quelque chose auquel je me suis mis du coup un peu plus tardivement en découvrant le groupe. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse un peu à la vie du groupe, à ce qui a été fait, les visuels, le titre des chansons, ou même les chansons en elles-mêmes, on arrive très vite à ce fameux fil rouge, entre guillemets, où on colle à ce thème un peu fun qu'on a tendance à voir quand on découvre le groupe. Et c'est vrai que ça colle, c'est ce qui colle aussi à ces films de genre, c'est qu'il n'y a pas tellement de prise de tête, c'est quelque chose de fun, et je trouve que ça colle bien au groupe, et au cours de tous les albums, des trois albums, c'est quelque chose qui a perduré, qui s'est pas perdu, quoi.
Oui, c'est pour ça que vous faites de la musique, c'est l'idée de pas se prendre la tête, de rigoler.
Ouais. C'était vraiment l'idée de base du groupe, en fait. Pour la petite anecdote qu'on raconte tout le temps, c'était le but de fonder ce groupe, c'était pour pouvoir faire un maximum de concerts, pouvoir quand même jouer très facilement, même si on était bourré en soirée. Voilà, c'était...
On s'est un peu calmé depuis, mais...
Ouais, ça va. Mais on se prend un peu plus la tête, du coup, on pourrait pas les jouer bourrés maintenant.
Ah ouais?
Ah bah non.
Non mais d'ailleurs on recommande à personne de jouer de la musique bourrée, c'est...
Ouais non.
Vous avez testé du coup déjà?
Oui.
Ouais, forcément.
Non mais c'est plus pour le public aussi, quoi. Quand tu payes une place de concert, des fois t'as envie de voir des gens qui sont un peu siennes sur scène, quoi.
Un peu lucides.
Ouais, c'est ça, quoi.
Et ouais, parce qu'en plus ça fait déjà 10 ans que vous tournez, donc...
Après, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on tournait, parce qu'au début, c'était vraiment un petit concert par-ci, par-là. En plus, on a eu une pause pendant près de 2 ans, avant qu'il arrive dans le groupe, Paul. Donc, ouais, c'est vraiment que depuis 2019, 2020, qu'on... Enfin, 2020... Ouais. Ouais. Ce qui reste de 2020.
C'est vrai que si on enlève le Covid et puis... Et puis le moment de un peu de pause du groupe, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de 10 ans, mais en tout cas oui, ça fait quand même pas mal d'années qu'on.
Ouais, voilà.
Mais voilà, c'est en fait ça devient de plus en plus d'années depuis quelques années un peu plus sérieux. On essaie de faire un peu plus de dates, de d'être plus précis sur ce qu'on compose, que ce soit mais aussi sur la scénographie, etc. On prend en fait à cœur un peu tous ces éléments là autour. Hein.
Et pendant ces 10 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans vos influences musicales, dans même l'univers que vous vouliez partager?
Oui, ça, c'est assez empirique en fait. Comme disait Luc, le premier album, c'était vraiment, donc moi j'étais pas encore dans le groupe, mais de ce que j'en ai compris, c'était vraiment entre amis, faire ce style de musique qui existe quand même depuis. Mis des années 80, quoi, le death metal, et surtout celui qu'on pratique, c'est vraiment un truc un peu première vague, donc c'est quelque chose qu'on écoutait, qu'on avait envie de reproduire. Sur le premier album, c'est très ça, c'est très spontané. Sur le deuxième, justement, quand on est reparti un peu de la base, on est reparti de composition un peu en studio, etc. Donc on a un peu voilà, rajouté une touche autour et comment dire, un peu complexifié ça. Le troisième album, il est sorti du coup avec cette expérience du deuxième album où on se disait, ok, il y a toute cette on a rajouté des couches, mais en fait, où est-ce que ça va ? Et en plus, on a composé ça pendant le confinement, donc on a essayé de structurer un peu une histoire sur le dernier album. Et là, pour tout dévoiler, puisqu'on est à la radio. Non, mais sur ce qu'on compose maintenant, on essaye justement de faire un peu un retour aux sources et d'aller sur quelque chose de plus simple, plus efficace, parce que justement, on fait de plus en plus de concerts. Et en fait, on a envie aussi d'apprécier des morceaux en live, des trucs qui sont assez efficaces. Donc, c'est le processus de composition est assez empirique par rapport à ça.
Et ouais, tu parlais du dernier album Dolores, qui est sorti l'année dernière, en 2023. J'avais remarqué aussi qu'il y avait une histoire tout au long de l'album. C'est une histoire qui se suit, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. On est parti d'un... Donc Luc, qui compose, est aussi dessinateur. Et en fait, on est parti d'un dessin, un croquis qu'il avait fait, d'un dessin de femme qui fondait. Et on avait envie de... Bon, on s'est dit, vas-y, faisons un peu l'histoire de ce portrait, quoi. Et donc, on a imaginé, voilà, une espèce de descente, de chute d'un personnage féminin qui arrive dans un monde un peu psychédélique. Et qui se retrouve à perdre un peu. Donc ça nous plaît, ouais, ça nous plaisait sur plein sur l'aspect, comme on disait, on a un groupe de rock progressif avec Luc à côté, donc cet aspect narratif dans l'écriture d'un album, ça nous intéresse. Et en plus, il y avait le fait de tisser un peu de faire une chanson, comme on reste sur ce truc de film, une chanson, une scène de film. Donc du coup, quelle ambiance on met, quelle ambiance sonore on crée. Il y avait ça nous a stimulé en fait artistiquement et on est parti là-dessus. Ouais.
Comme si c'était des épisodes d'une série.
Exactement. C'est même peut-être plus une série qu'un film.
Ouais, c'est bon.
Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Hein, avec...
Parce que l'idée du rock progressiste, petite parenthèse, c'est ça, c'est de faire une suite un peu dans les morceaux.
C'est pas forcément l'idée première du style. C'est plutôt musical. Dans l'idée, c'est d'aller un peu à contre-courant de ce qui se faisait, de très formaté dans les années 60 et tout. Mais par contre, oui, ça se fait beaucoup dans ce style, du coup, d'avoir des albums concept qui se développent, qui développent une seule et même histoire, comme The Wall de Pink Floyd, par exemple, ou plein d'autres trucs.
Et vos autres albums, du coup, Spontaneous Liquefaction en 2016 et Cher Liquide en 2020, eux, il n'y a pas d'histoire tout au long de l'album.
Non, c'est vraiment, c'est vraiment des titres en one shot, une petite histoire à chaque fois, mais toujours quelque chose d'un peu imaginé, d'assez détaché au final de la réalité, quoi. C'est plutôt, on est vraiment dans des histoires d'horreur en général, un peu fun.
Est-ce que vous retrouvez un peu un fil conducteur aux albums ou une ambiance que vous mettez dans un album
Au sein d'un album, ouais, mais c'est vrai qu'au final, les trois albums sont assez différents, je trouve. Donc, ce qui est cool aussi, ça fait vraiment trois univers à part entière.
Comment vous décririez les univers des deux albums précédents, avant Dolores ?
Vas-y, t'en fais. Fais le premier, moi je ferai le deuxième.
Je sais pas, moi le prof.
Attends, je réfléchis. Je te lançais la perche pour... Oui, il y a un côté un peu, je sais pas, compact, très brut dans le deuxième, mais c'est vrai que on pourrait dire la même chose du premier, je sais pas si c'est très éclair. En tout cas, moi, comme je le ressens, ce deuxième album, c'est vraiment un groupe qui reprend avec des idées en gestation, moi qui arrive et qui fait vas-y, faisons ça. Et en fait, il y a quelque chose d'assez plutôt dense, j'allais dire, en fait, d'assez dense. Et même sur le nom de l'album, qui est en fait juste la traduction de notre nom de groupe en français, en fait, il y avait l'idée de prendre le concept et de le faire un peu comme ça, émerger.
De creuser le concept, quoi.
Ouais, c'est ça, mais de faire des choses plus... Voilà, en tout cas, dense. Si on veut, faut repartir sur un moule, je pense que le deuxième est dense. Et alors le premier...
Ouais, du coup, moins dense.
En un mot.
assez simpliste au final, hein, parce que c'était vraiment la motivation première, c'est de faire quelque chose de très simple. Et pour le coup, peut-être vu les inspirations qu'on avait à l'époque, moi ça m'évoque vraiment des films, des gros nanars ou des films de série B, comme Evil Dead ou ce genre de trucs, quoi.
Donc du coup, efficace. Le premier, peut-être.
Peut-être, ouais.
Et on va passer sur une petite pause musicale. On va écouter un des morceaux de l'album Dolores qui s'appelle Dose létale médiane. Est-ce que vous voulez dire un mot, raconter un peu où on en est dans l'histoire?
Ouais, bah en fait c'est là, donc le personnage fait un bad trip en fait et on est sur la dose létale médiane qui est si on la dépasse on meurt justement de cette injection de médicaments, enfin ou en tout cas autre
c'est
chose.
Que...
Je crois que c'est ça, ouais.
C'est
je...
plutôt qu'à c'est à partir de cette dose là,
voilà, c'est ça.
Pardon. 50% des personnes peuvent décéder, okay, et le reste peuvent survivre.
On
c'est
écoute, ouais.
50-50.
On est toujours sur l'apérophonie avec Liquid Flesh et on vient d'écouter Dose létale médiane. Donc on peut remarquer en écoutant votre musique, on n'entend pas forcément la voix. Cette façon de chanter particulière, est-ce qu'elle se travaille? C'est une technique
Ouais, c'est une technique à part, hein, qui est propre au style. Ça se... Maintenant, je pense que tu dois avoir des cours maintenant sur YouTube, des tutos et tout. Moi, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai commencé, c'était encore... tu criais, puis... Puis vraiment, t'arrivais à faire un peu la... C'est par mimétisme, en fait, t'arrivais à faire la voix.
Le growl.
Le growl, c'est ça, ouais.
Growl.
Ouais, qui est la voix grave. Et bon, bref, c'est un terme un peu technique. On nomme peut-être certains vocaux plus aigus autrement, et bref. Mais il y a... Ouais, c'est une technique particulière... Qui est vraiment inhérente au style. Je dirais même que, enfin, nous c'est ce qu'on a remarqué aussi en composant un peu, qu'en fait, limite, tu mets ça sur même d'autres styles musicaux. Alors, il y a un son aussi qui va autour, mais c'est quelque chose, immédiatement, ça renvoie à ce style de musique, quoi, quand t'en mets sur quelque chose. Mmh. Donc, ouais, bien. Voilà.
Mais du coup, pour s'entraîner, il faut pas avoir des voisins ou...
Ouais, bah alors, le chant en général, les instruments avant, donc chant compris, c'est bien de pas avoir des voisins ou d'avoir une cave ou quelque chose et tout. Donc ouais, bah nous, quand j'ai commencé du coup avec d'autres groupes, on répétait dans le garage d'un collègue qui est souvent le batteur. C'est celui qui pouvait justement faire du bruit sans ennuyer les voisins. Et ouais, ça se fait. Mais c'est très... ça vient assez intuitivement, quoi, après. Voilà.
Et ça fait pas, au bout de une heure de chant, ça fait pas mal à la gorge ?
Au début, on peut plus parler. On a une voix d'adolescent qui mue quand on... Moi, les premiers concerts que je faisais, je parlais pas entre les morceaux, parce que... Enfin, je crois que j'ai essayé, du coup, au premier concert. Puis ma voix, elle a fait... J'ai fait, bon, maintenant, j'arrête. Et en fait, bah, je sais pas, en tout cas, moi, au bout de quelques années, le corps s'y fait. Et c'est vrai que maintenant, je peux tenir une heure et en fait parler comme je parle maintenant juste avant, tout à fait différent. Ouais, c'est une habitude, quoi.
C'est peut-être un travail inconscient.
Ouais, non, c'est musculaire, quoi. En fait, il y a une habitude qui se fait sur... si on veut rentrer dans le détail, les cordes vocales, donc elles vibrent et produisent du son, en fait. Et en fait, ce chant-là, c'est vraiment de la contraction des cordes vocales. Donc, si on met une caméra dans la... Là, c'est de la radio, donc on ne le voit pas. Mais en gros, c'est vraiment les cordes vocales qui se contractent. Et donc, ça joue beaucoup sur le diaphragme, sur l'ouverture du diaphragme, en fait. Et les cordes vocales font une espèce de ventouse, en fait. Et c'est ça qui crée ce son-là, en fait. Et après, on le module avec une technique vocale ensuite. On va moduler, du coup, la hauteur de tout cela. Et puis, ça reste du chant classique, mais c'est vraiment vrai... très différent de ça se rapproche de ce qu'on peut avoir dans les chants gutturaux en fait mongols tibétains, les choses comme ça. En fait, c'est le même procédé, c'est qu'on vient plus jouer avec les cordes vocales, on vient par contre jouer avec la résonance de la gorge.
Et en ce qui concerne les paroles, comment vous les écrivez?
Ben je les ai, ouais, c'est moi qui les écris. Et justement sur moi, l'album où je suis arrivé, c'était un peu, il y avait plein de chansons, donc en fait on s'inspire du coup de cette thématique des films d'horreur. Moi souvent je vais pas recoller par exemple un film, je vais pas refaire le scénario d'un film et tout, mais je vais prendre une ambiance et écrire autour, et ça part de maquettes vocales. Donc c'est-à-dire qu'on va la musique va être composée, moi je vais écrire une base rythmique par-dessus vocalement, comme ça par-dessus, et en fait par rapport à ça j'aurai des, en gros, ça va construire des couplets, des refrains, et moi je vais écrire par rapport à ça. Et après, ben, dans le cadre de Cher Liquide, notre deuxième album, il y avait plein de petites chansons comme ça, donc c'est pas, il n'y a pas vraiment de thème, d'ailleurs ça se recoupe parfois sur certaines choses. Et sur le dernier album de Lorès, il y avait vraiment une histoire. Donc en fait, pour le coup, on a écrit, c'était intéressant ce processus, on a écrit les textes, en tout cas l'idée du texte, avant de faire la musique. Donc on a écrit un peu, voilà en gros ce qui allait se passer dans cette scène, dans cet épisode de la série, comme tu disais. Et ensuite, on a écrit les compositions, et après on est revenu sur les paroles pour un peu étayer certaines choses, etc.
Et c'est important de comprendre les paroles quand on écoute la musique ? Ou c'est plutôt niveau sonorité qu'il faut juste capter ce qu'on entend, quoi ?
Je sais pas ce que vous en pensez, parce que moi j'ai voilà. Du coup l'aspect praticien, entre guillemets, et moi j'aime, du coup en tant que chanteur, moi j'aime bien entendre, quand je comprends qu'on a l'effet sonore intense et qu'en plus on comprend, je trouve ça super impressionnant. Après c'est vrai que ça dépend des styles, en fait, ça dépend des types de productions. Dans le métal, on a des productions des fois qui sont très... j'allais dire mauvaise, mais enfin pour en gros non, mais qui sont très brutes, quoi, où on vraiment pour le coup c'est, et donc en fait limite vu que tu comprends rien, comprendre les paroles autour c'est pas forcément très important, quoi. Et il y a aussi un truc juste pour finir qui effectivement, plus on est grave, plus ça va être compliqué de discerner le chant. Donc par exemple dans des styles comme le black metal par exemple, on a un chant plus aigu. Ou d'autres groupes de death metal qui ont un chant plus aigu, en fait on arrive plus à comprendre ce qui se passe, et donc après ça, voilà, ça fait sens avec l'esthétique du groupe, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais nous pour le coup on a choisi le chemin inverse où moi je chante assez grave, et donc moi en tout cas j'essaie de faire en sorte qu'on comprenne ce que je dis le plus possible. Après voilà, il y a plein d'altérations autour, la production, la volonté un peu générale du morceau qui fait que des fois on comprend pas, et en fait on va retenir plus l'élément rythmique. Donc je sais pas si vous voulez compléter autour sur votre ressenti.
Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Alors est-ce que c'est parce que je suis batteur et que la rythmique m'implique, enfin me touche un peu plus, mais c'est vrai que finalement de pas comprendre les paroles, c'est pas quelque chose qui va spécialement me déranger. Au contraire, si la voix est placée d'une certaine manière avec une certaine hauteur de notes, je trouve qu'elle va plutôt appuyer la rythmique et peut-être accentuer un peu l'émotion du morceau, qui peut être plus ou moins joyeuse, etc. Mais je trouve que ouais, c'est plutôt quelque chose qui va accompagner le riff de guitare et même un peu la rythmique de batterie, dans le sens où c'est quelque chose qui va plutôt compléter et alourdir ou pas le riff. Ou, je trouve que ouais, ça le complète plutôt dans son ensemble, quoi.
Ouais, moi personnellement, j'aime bien justement quand on comprend pas tout, quand on se prend pas le sens du morceau dans la face. Et ouais, ça permet d'avoir un détachement et si jamais on a envie de s'intéresser au morceau, là on va lire les paroles sur le livret du disque. Et voilà quoi.
Et sinon on capte des morceaux par-ci par-là.
Ouais, voilà, on capte des petites bribes. C'est un peu la même chose que quand on n'est pas bilingue anglais et qu'on écoute un morceau même de pop. On va pas tout comprendre. On va comprendre une petite phrase par-ci par-là, mais si on a envie d'aller plus loin, là on va s'y intéresser. Et en fait, c'est le même principe. C'est le même principe ici, quoi.
Et donc là, on a parlé de la voix, mais est-ce que pour les instruments, vous avez des manières de jouer vraiment techniquement des gestes qui sont spécifiques?
Je pense qu'il y a, il y a quelques techniques qui sont spécifiques, mais après. Pas tant que ça non plus, c'est souvent des choses qui vont se retrouver dans d'autres styles voisins, comme dans le black metal, dans le doom ou dans le thrash. En fait, c'est, la plupart des techniques sont un peu importées du thrash, parce que c'est un peu la suite logique de ce style-là, le death. Mais on va avoir par exemple le tremolo picking, je sais pas si c'est vraiment ça le bon terme, mais c'est de vraiment jouer sur la même note très très vite et de changer de note au bout d'un moment, quoi.
Et pour faire une tension un peu.
Ouais, soit faire une tension, soit faire un riff où on a l'intensité de l'attaque tout le temps, en fait, sans aucune pause. Et voilà, y a ça, il y a le jeu en power chord, bien sûr, qui est commun à vraiment tous les styles de metal, même à du rock. Donc.
Ça veut dire quoi? Tu peux expliquer
power chord, c'est. Toi, tu langage solfège.
Alors, en fait, c'est, on appelle ça un. Je fais la truc de Wikipédia, on appelle ça un accord puissance. En fait, c'est on va faire la dominante et la quinte. Donc, genre sur un power chord de Do, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, Luc, on va faire le Do et le Sol, en fait. Et en fait, à la guitare, c'est une position qui est assez facile parce qu'on met un doigt à un endroit sur une corde et en fait, on décale juste d'une case et on prend la corde. D'en dessous, c'est ça? C'est ça, les doigts, les deux d'en dessous. Et on va faire un accord comme ça. Donc c'est ça, ouais, c'est dominante, quinte et octave aussi quand tu mets les.
C'est ça.
Et en fait, ça fait du coup que ça, la quinte va renforcer la dominante. En gros, ça fait qu'on va vraiment, pour faire simple, en gros, on va ressentir un do, si on fait un power chord de do, hyper forte, hyper puissante. Et amplifié du coup avec le son qu'on connaît mais dans le rock et dans le métal, donc un peu distordu et tout, ça fait vraiment un gros truc, quoi. Et donc ça fait un son vraiment épais, bien plein, et voilà, c'est ça une power chord. Voilà, c'était la
Merci.
Minute solfège.
et à la batterie
Et à la batterie, je trouve qu'il y a deux techniques qui ressortent vraiment dans ce style. Alors dans le death metal, même dans le black metal ou ailleurs, il y a le blast et le skank. Alors c'est des techniques qui sont pas spécialement difficiles quand on les décortique, mais elles sont pratiquées à des rythmes qui sont quand même assez élevés, et c'est ce qui rend je trouve ces techniques qui sont assez dures à pratiquer quand on veut les jouer réellement. Mais dans le fond, c'est des techniques qui restent très basiques si on les joue très lentement. C'est des choses qui vont pas spécialement avoir de sens et même rendre et qui vont avoir un rendu presque inutile si elles sont jouées très lentement. Et ce qui colle avec ce style, c'est de les jouer très vite et finalement d'apporter un côté assez lourd au morceau et au riff qui va être associé à ce rythme de batterie. Mais c'est vrai que c'est des techniques qui sont vraiment très bêtes, c'est vraiment des roulements où on alterne un coup à la main droite, un coup à la main gauche, et la grosse sieste qui va suivre une des deux mains, et ça s'arrête là. Mais c'est uniquement la vitesse qui va rendre technique ces techniques de batterie, du coup.
Le blast et le skank.
Ouais, c'est ça.
Et c'est aussi utilisé dans d'autres styles de musique ?
Le skunk, oui, à la limite. Ça peut être utilisé dans d'autres styles, mais comme dans le punk, qui est beaucoup, je trouve qu'il est beaucoup utilisé dans le style punk. Le blast, lui, c'est uniquement dans le métal, en tout cas que je l'ai retrouvé, moi. Mais ouais, ce qui va les différencier, ouais, c'est vraiment la vitesse et c'est tout.
Et concrètement, tu tapes sur quoi, du coup ? En main gauche, main droite ?
C'est main gauche, main droite. Alors pour le blast, ça va être surtout Charlie caisse claire ou Ride caisse claire et la grosse caisse. Et le skunk, c'est plutôt sur Charlie caisse claire qui va se jouer. Mais ça se dispatche très peu sur d'autres éléments de la batterie, comme les cymbales ou les toms. Ça reste quand même assez ciblé sur ces 3 ou 4 éléments de la batterie.
Ok, merci. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait certains morceaux que vous ne pouviez même pas jouer en live parce qu'ils étaient un peu complexes. C'est quoi vos... Comment vous différenciez la musique que vous jouez en live ou en studio ?
Alors, rectification, c'est juste qu'il y a des... Je pense qu'on pourrait les jouer, mais il faut qu'on bosse pour les jouer. Et en fait, pour répondre plus globalement, en fait, on a, comme c'est notre troisième album, depuis le temps qu'on fait des concerts, en fait, il y a des morceaux qu'on sent qui fonctionnent bien en live, des morceaux qu'on a testés, des morceaux qu'on n'a pas. Enfin, et en fait, on reste en gros sur ces morceaux-là. Par exemple, il y a des morceaux du premier album qu'on joue encore parce qu'ils sont très efficaces en live, qui marchent très bien. Et donc c'est plutôt comme ça que nous on aborde après la composition. Après c'est vrai que quand on va composer après en jam, effectivement c'est des trucs qu'on va sortir à l'instant, jam en improvisation qu'on va sortir à l'instant en répétition, donc on peut les jouer possiblement pour les rejouer. Des fois on répète quand on maquette, donc on est directement enregistré phrase par phrase. Ce qu'on fait, des fois c'est vrai que on sait peut-être jouer un peu ces riffs là, mais par contre il faut ou ces parties là de batterie, mais il faut faut pouvoir les jouer pendant le morceau, quoi, du début du morceau. Donc c'est vrai que c'est toujours des fois se replonger dans des morceaux, c'est toujours un petit investissement, ça dépend. Mais globalement ce que fait les coups de flèche, c'est dans le death metal, dans le style, c'est pas très, enfin c'est assez abordable en vrai.
Parce que dans l'enregistrement, vous faites phrase après phrase musicale.
Ça dépend. On essaie de faire morceau en entier. Mais la magie de l'enregistrement studio, c'est que tu peux... c'est que tu gardes les meilleurs de ce que tu as enregistré. Donc des fois, tu vas... quand il y a une partie que tu n'arrives pas à passer... justement, un enchaînement de riff que tu n'arrives pas à passer, tu le fais une seule fois... Et tu peux faire un peu ce découpage là, quoi, qui ne marche qu'en studio, parce que c'est là où le live du coup rend la vérité, c'est que en fait tu peux faire aussi bien que tu veux quelque chose, et quand tu joues en live par contre il faut savoir de A à Z, quoi. Mais des fois en studio, comme tu l'as pas forcément appris par cœur parce que t'as la partition sous les yeux ou tu viens de faire un arrangement en fait à l'instant, et c'est vrai qu'il faut des fois tu te retrouves à faire juste ça. Mais c'est plutôt j'ai remarqué les batteurs font moins ça.
C'est vrai que les batteurs font souvent des trucs en d'une traite tout le morceau. Mais d'après ce que j'ai vu en tout cas, mais c'est vrai que moi personnellement à la guitare j'aime bien faire riff par riff, parce que c'est aussi dans le contexte du métal à notre époque, c'est un style qui est devenu très très concurrentiel au niveau de la production, de la propreté et de la précision du jeu. En fait il y a plein de, même des très gros groupes et tout, de musiciens extrêmement bons qui vont quand même retoucher chaque prise sur l'ordinateur derrière pour recaler chaque coup précisément sur la grille de tempo. Et du coup, ça fait qu'on a à côté des références qui sonnent tellement, tellement propres, tellement justes, tellement... Ouais, c'est chirurgical, quoi. Du coup, moi, personnellement, quand j'entends un truc, même s'il est très bien enregistré, j'ai forcément envie de refaire plein de prises du même riff jusqu'à avoir vraiment ce truc parfait, quoi. Et pour faire le moindre touche derrière. Et ouais, c'est une approche un peu différente de style un peu plus vivant, entre guillemets, comme le jazz ou des trucs comme ça, quoi.
Et vous préférez quel style de jeu ? Plutôt en studio, essayer de faire quelque chose hyper propre, ou alors en scène ?
Franchement, justement, de faire un peu les deux, c'est bien, quoi. Ça permet de respirer... Dans le studio, justement, le but c'est de proposer, c'est de rendre service à la composition avant tout. Et du coup, la meilleure façon de l'illustrer, c'est en ayant un truc très propre, très chiadé et tout. Du coup, je trouve pas qu'il y ait de problème à jouer de cette façon-là. C'est plus confortable aussi. Et par contre, le live, c'est la, c'est une autre approche complètement différente, plus dans le défouloir, tout ça. Donc,
En ce moment, vous en faites beaucoup des concerts ?
On en fait quelques-uns, ouais. On a sorti le dernier album avril dernier 2024. Et c'est vrai que tout simplement, c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est aussi de la promotion pour sortir sur cet album-là et puis pour aussi pouvoir nous jouer des nouveaux morceaux en live. Donc on a fait une vingtaine de dates, je pense, depuis un truc comme ça, hein, peut-être un peu
depuis
moins.
Depuis avril 2023.
Depuis avril.
Oui, je me disais, j'ai pas suivi.
Pardon. Oui, 23, pardon. Oui, c'est ça, pas 24. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup là. On serait juste de tourner là si on avait fait dates. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on apprécie. C'est un exercice qui tient vachement à cœur parce que déjà on rencontre les gens qui nous écoutent à ce moment-là et puis ça permet de justement, comme disait Luc, on essaie de faire quelque chose qui, par la narration, la construction, le tracklisting, fait qu'on puisse écouter ça aussi au casque, chez soi ou sur l'enceinte. Mais c'est quand même une musique par ses spécificités qui est quand même vachement mieux à découvrir en live. Et donc, c'est un rendez-vous qui est super important, le live. Moi, perso, je préfère le live.
Et ben, on va enchaîner avec un autre morceau de l'album Dolores qui s'appelle « Cauchemar blanc ».
We'll be right back.
Et on vient d'écouter Cauchemar Blanc de Liquid Flesh, qui est issu de votre troisième album Dolores, sorti l'année dernière en 2023. Est-ce que maintenant vous êtes en train de préparer un nouvel album ?
Alors, tout doucement, ouais. Et on est en phase de composition, il n'y a pas encore vraiment de thème pour les textes, à moins que tu aies quelque chose de ton côté. Mais...
Non.
Mais ouais, pour l'instant, c'est plus des idées assez vagues, des idées de visuel aussi. Et puis voilà, on essaie de prendre des rendez-vous pour composer tous ensemble et maqueter tout ça, quoi.
Mais, ça voilà. Tourne autour d'un thème particulier, déjà ?
Pas spécialement, mais justement, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est quelque chose de très fixé, mais je pense qu'on essaye de se détacher un peu d'un concept album, là, et de faire quelque chose d'un peu plus spontané, un peu plus orienté live au niveau de la forme. Donc après, on verra comment ça va évoluer au fil de l'écriture.
Et là, les prochaines dates qui arrivent pour l'été, le printemps ?
Alors, on joue lundi à Chambéry, près de Grenoble. Alors, je ne sais pas quand ça sera diffusé. Voilà, on joue lundi, 20 mai au Brin de Zinc, avec deux groupes italiens qui sont super. Et on va jouer ensuite, tout n'est pas confirmé, mais a priori ça l'est, donc je peux balancer l'info. Mais donc on a une date à Nantes début mi-juin, et ensuite on va rejouer à Nantes début juillet, et on enchaîne avec quatre dates en Espagne. Et il y aura une date qui s'est a priori à Poitiers la veille de Nantes. Voilà, c'était l'info pour mes collègues qui ne le savaient pas.
Bon bah cool.
En exclusivité.
Voilà, le mec m'a rappelé avant-hier. Mais voilà, donc ouais, on a quelques dates cet été. Et puis après, justement, ouais, on va partir en vacances. Et puis on va se remettre un peu à composer. Et il y aura d'autres dates d'ici la fin de l'année dans le coin, si jamais.
Ouais, vous jouez un peu loin ? Comment ça se fait ? Est-ce que vous êtes un des seuls groupes dans votre catégorie à faire un peu horreur dans ce délire-là ?
Par rapport à quoi ? D'autres autres groupes ?
D'autres groupes de France ou...
Non, bah c'est, alors sur les thématiques, nous les thématiques qu'on a, en vrai c'est des choses assez classiques dans le métal, justement, comme on disait tout à l'heure, pour coller à la musique, on va souvent piquer sur ces inspirations-là. Et après, bah, le fait de jouer un peu ailleurs, ça vient juste du fait que au bout d'un moment, tu commences à, dans l'évolution de ton groupe, tu joues dans le coin, tu as fait jouer un peu. En plus, c'est des styles un peu de niche, tu n'as pas beaucoup de lieux dans le coin. Donc après, tu essayes de jouer un peu ailleurs pour présenter ta musique à d'autres gens. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, on fait ça pour le plaisir. Donc c'est aussi l'occasion, même si on voyage surtout, on découvre surtout les McDo et les autoroutes de France avec en faisant des tournées. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres groupes, et puis faire des échanges de dates, échanger avec d'autres personnes, de voir des groupes qu'on n'aurait pas l'occasion de voir ici, parce que du coup, c'est quelque chose qui est dans notre ligne de mire en ce moment, c'est de plus en plus de jouer dans d'autres pays. Et de faire des paquets de dates un peu conséquents, c'est quelque chose qu'on a à cœur.
Et donc, merci d'être venu au micro de Radio Campus. Si les auditeurs, auditrices veulent venir vous écouter, c'est lundi au Brin de Zinc,
c'est
à
ça,
Chambéry.
Ouais, ça. Ouais.
Et en attendant, vous pouvez toujours retrouver la musique en ligne. Merci à vous. Bonne
merci
soirée.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Bonne soirée.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !